SBS Radio.
Journal des sports avec tout d'abord le Tour de France. Thibaut Pinot a remporté la 14e étape hier en haut du Tourmalet. Julien Alaphilippe garde le maillot jaune et est arrivé à la 2e place. Thomas de Saint-Léger et Martin Guèze pour Radio France Internationale.
Ciel bleu, blanc, rouge aujourd'hui sur les Pyrénées. Victoire de Thibaut Pinot, le plus costaud des favoris sur les terribles pourcentages du Tourmalet. Le franc-comtois a attendu le dernier kilomètre au moment où la pente se cabre pour atteindre 12-13% pour porter cette attaque, fendre la foule et lever le bras quelques secondes avant, le maillot jaune, Julien Alaphilippe. On en reparlera. On reparlera aussi des perdants du jour, dont fait partie le tenant du titre Geraint Thomas. Mais d'abord, honneur au vainqueur, Thibaut Pinot, sans doute le meilleur grimpeur sur ce Tour de France. Il remonte à la 6e place du général, alors qu'il reste encore beaucoup de montagnes. Le coureur de la Groupama FDJ peut-il viser encore plus haut, c'est-à-dire un podium au minimum? C'est la question, évidemment, qu'on est allé lui poser. Sa réponse, vous allez l'entendre, est plutôt prudente.
Il reste tellement d'étapes, il reste demain qui est très dur, il faudra récupérer, c'est jamais été trop bon fort les lendemains de victoire, donc il faudra récupérer ce soir, il y a un long transfert. Après, des jours sans, ça peut aussi arriver à tout le monde, hein. On est sur le trou, dans la troisième semaine, il y aura des défaillances. On a vu Geraint Thomas aujourd'hui, pas impérial, ça peut m'arriver demain, ça peut m'arriver sur une étape dans les Alpes. Donc pour l'instant, oui, aujourd'hui, j'étais peut-être plus fort, mais le tour n'est pas fini et il faut rester humble parce que on sait que le vélo, c'est dur et voilà.
Julien Alaphilippe garde le maillot jaune, donc il prend chaque jour comme il vient. À nouveau, Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
À chaque étape, il y a un petit jeu en quelque sorte entre Julien Alaphilippe et les journalistes. Toujours cette même question: jusqu'à quand pensez-vous garder le maillot jaune? Avant-hier, la réponse c'était on verra après le chrono. Hier, on verra après le Tourmalet. Eh bien, on a vu, victoire sur le contre-la-montre, 2e place au Tourmalet. Il peut difficilement cacher ses ambitions, le coureur de la De Koninck Quick-Step. Son discours reste quand même le même, grosso modo, je prends chaque jour comme il vient. En revanche, du côté de ses coéquipiers, c'est assez nouveau, on se cache à peine. Oui, Julien Alaphilippe peut gagner le Tour de France, c'est ce que nous disait Yves Lampaert tout à l'heure.
Quand tout va bien, quand il n'y a pas un mauvais jour, je pense que c'est possible. Nous sommes bien, on est en très bonne position. Il a, je pense, 2 minutes à Thomas, il est 2e, c'est parfait. Hein, il est incroyable, fort. Oui, je suis très fier que je suis coéquipier de lui.
Il est tellement incroyable, Julien Alaphilippe, fort dans les petites côtes, fort en contre-la-montre, fort dans les grands cols, fort partout en fait, qu'évidemment les suspicions apparaissent. C'est un classique dans le cyclisme et le Français n'est pas épargné. Quand on lui demande si ça le touche, lui répond simplement que c'est le lot d'un coureur qui marche, voilà, et puis c'est tout.
Et l'autre enseignement de la journée, Thomas, c'est la défaillance du vainqueur sortant du Tour de France, Geraint Thomas.
Oui, alors défaillance, le mot est peut-être un peu fort, en tout cas c'est une image rare. Oui, Geraint Thomas a craqué dans le dernier kilomètre. Oui, il a perdu du temps sur pas mal de favoris, dont son coéquipier d'ailleurs, Egan Bernal. Mais le Gallois reste à la 2e place du général. Il n'a pas rassuré quand même, on ne va pas se cacher, loin de là. Et chez Ineos, son équipe, ce n'était pas vraiment la banane ce soir. Écoutez, le directeur sportif de la formation britannique, Nicolas Portal.
Non, l'état d'urgence, c'est quand on perdrait complètement pied, qu'on n'aurait plus grand monde vraiment dans le général. Le général n'est pas perdu à VG, Egan a fait une très belle montée. Et c'est resté assez compact jusqu'en haut. Donc il y a quand même un paquet de coureurs qui sont dans le même niveau. Et par contre, la vraie question, c'est vrai, c'était, on n'est pas habitué à avoir autant de gars comme ça dans un mouchoir de poche. Et puis... Puis en général, on arrive toujours à sortir quelque chose, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt mitigé, ouais.
Du coup, on risque de voir des Ineos offensifs cette année.
Ouais, mais pour être offensif, il faut avoir les jambes aussi. Donc, faut voir ça, ouais.
Le Gersois Nicolas Portal qui fait, je ne dirais pas, dans la promesse de Gascon, mais en tout cas, on l'entend bien. C'est pas la grande ambiance dans le camp Ineos. On verra ce que ça donnera demain avec une nouvelle étape très difficile, 185 km entre Limoux et Foix-Prat d'Albis, avec 3 ascensions difficiles dans le final.
On passe au foot avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, comme vous le savez, l'a emporté 1-0 contre le Sénégal. Eric Mamrut Radio France Internationale.
Même si au départ l'Algérie ne figurait pas parmi les favorites de cette CAN 2019, on a très vite vu qu'il faudrait compter sur elle pour la victoire finale. Son premier tour a été limpide, 3 matchs, 3 victoires sur le Kenya, sur le Sénégal déjà et sur la Tanzanie, avec au total 6 buts inscrits, aucun encaissé. La fluidité de son jeu, sa percussion, la solidarité affichée ont ensuite continué à payer avec des succès sur la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal, une seconde fois en finale, sans qu'il n'y ait jamais eu quelque chose à redire. Et ce, même si les Fennecs ont assuré le strict minimum hier. L'Algérie sacrée avec la meilleure attaque au final, 12 buts inscrits et la meilleure défense, 2 encaissés. Un vrai triomphe impensable encore l'an dernier, lorsque Djamel Belmadi avait pris en main l'équipe. L'Algérie était alors au creux de la vague après son élimination au premier tour de la CAN 2017 et la non-qualification pour le Mondial 2018. Depuis en fait le 8e de finale de la Coupe du Monde 2014, 5 sélectionneurs s'étaient succédés au chevet des Fennecs sans jamais arriver à freiner leur dégringolade. Djamel Belmadi, lui, a réussi fort de sa seule expérience de sélectionneur du Qatar. Hier, l'Algérien né en France pouvait savourer son succès, celui de l'Algérie. Djamel Belmadi.
Très heureux pour toute notre nation, notre peuple qui attendait cette deuxième étoile depuis tellement de temps. Première Coupe d'Afrique gagnée à l'extérieur du pays. Quand on voit d'où on vient, il y a 10 mois, j'ai récupéré une équipe vraiment dans la difficulté, sans vouloir dramatiser, mais c'était vraiment dans la difficulté. Et réaliser tout ce qu'on a pu faire et se porter comme ça sur le toit de l'Afrique en 10 mois, c'est tout simplement extraordinaire. Ma pensée va directement vers les joueurs, c'est eux qui ont fait ce travail extraordinaire. Tellement de temps que l'on prépare cette CAN, tous les jours vivre comme ça, avec la pression de vouloir aller au bout, c'est pas quelque chose de facile. Et les joueurs ont été fabuleux.
Le Sénégal est bien sûr déçu. On écoute Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Reportage, Eric Mamrut, Radio France Internationale.
Ce qui nous manque, c'est être régulier. L'expérience de ces grands rendez-vous demande à y être le plus souvent pour pouvoir gagner cette CAN-là. Je crois que, comme je l'ai dit, on s'y approche. C'est vrai que sur ces 17 ans, on n'a pas souvent été régulier, mais si vous regardez sur ces 5 dernières années, quand même, l'équipe est en progression. On est retourné à la Coupe du Monde après 16 ans d'absence. 2 ans après, on se retrouve en finale contre l'Algérie. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut remettre tout en cause. Je crois que le travail doit continuer. Ces garçons-là, on doit les encourager. On aurait aimé le gagner, mais Dieu fait que ce n'était pas pour ce soir.
Le Sénégal qui a confirmé hier les difficultés parfois affichées dans le jeu lors de cette CAN, avec un manque de créativité, de justesse en attaque. Cela avait été notamment le cas lors de la demi-finale très compliquée, remportée uniquement grâce à un but contre son camp de la Tunisie. Algérie, Sénégal, Nigeria, c'est donc le podium de cette CAN 2019. Podium qui succède au trio Cameroun, Égypte, Burkina Faso. En 2 ans, donc, la hiérarchie africaine a bien bougé.
Enfin, un mot de rugby. Le tournoi des 4 nations avec l'Afrique du Sud qui s'est imposée contre l'Australie 35-17 hier. Martin Guèze et Claire Bargelès pour Radio France Internationale.
Répétition générale avant le mondial, mais les Springboks se sont permis de faire un petit peu tourner, ce qui ne les a pas empêchés de l'emporter largement 35-17. Avec le bonus offensif, s'il vous plaît, les Sud-Africains qui se sont appuyés sur une ossature un petit peu inhabituelle lors de ce match. 8 joueurs noirs étaient titulaires, soit plus de la moitié de l'équipe, une première dans l'histoire de l'Afrique du Sud, car la question des quotas dans le sport sud-africain pour retresser les torts de l'apartheid est plus que jamais d'actualité, Claire Bargelès.
Lors du coup d'envoi ce samedi, 8 joueurs noirs se trouvaient sur la pelouse d'Ellis Park, une équipe bien différente de celle qui avait remporté la Coupe du Monde de 1995 sur ce même terrain, sous les applaudissements de Nelson Mandela. Chester Williams était alors le seul joueur non blanc. Pour Léana, venue soutenir son équipe nationale, c'est une politique réussie de la part de la Fédération de rugby.
Je pense que c'est vraiment bien parce que nous avons des joueurs de différentes couleurs qui sont aussi très doués. Donc chacun devrait aussi avoir une opportunité. Je soutiens totalement cette décision. Je pense que l'on est une société inclusive, donc tout le monde devrait avoir sa chance. Si quelqu'un est bon, il doit être dans l'équipe.
Si l'accord passé entre la fédération et le gouvernement est respecté, la moitié de l'équipe qui s'envolera pour la Coupe du Monde au Japon en septembre sera non blanche. La question des quotas reste sensible, à cheval entre sport, politique et histoire. Sous l'apartheid, alors que la communauté noire représente plus de 80% de la population, il était interdit pour des joueurs de couleur de faire partie de l'équipe nationale. Alors aujourd'hui, Marvin est satisfait de pouvoir s'identifier à certains rugbymen.
On est content pour les gars. Ce changement, ça améliore vraiment les choses. Et on veut continuer à voir ça dans quelques mois pour la Coupe du Monde. J'espère qu'ils joueront vraiment bien.
Les tribunes sont aussi peu représentatives de la société et la partie en afrikaans de l'hymne national résonne plus fort que les autres. Lors de la dernière Coupe du Monde en Angleterre, les Springboks avaient été secoués suite à des débats autour de la parité et de la légitimité sportive des joueurs. Le premier capitaine noir de l'histoire, Siya Kolisi, nommé l'année dernière, a d'ailleurs exprimé son scepticisme quant au quota ratio, affirmant que Mandela lui-même n'aurait pas approuvé cette politique. Certains de ses joueurs auront en tout cas su montrer ce soir qu'ils méritent leur place, comme le demi-mêlée Herschel Vientjes, auteur de 2 essais et révélation du match.
Et dans l'autre match, la Nouvelle-Zélande a battu l'Argentine 20-16.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.